En direct du Monde Nouveau à Montpellier, le Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h48, vous l'avez entendu en direct du Monde Nouveau à Montpellier, informe de la transition environnementale et sociétale. C'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 3 octobre et c'est l'entrée est gratuite. Et nos invités ce matin, le parrain du forum est avec nous, Bertrand Picard, initiateur et président de la Fondation Solar Impulse. Bienvenue.
Ouais. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Pour vous donner un peu la dimension aussi de Bertrand Picard, qui est un aventurier mais qui aime bien aller dans des expérimentations. Il a fait par exemple le tour du monde sans escale, un avion où il n'y avait pas de carburant en tant que tel, classique. Comme quoi, tout est possible, quoi, hein, Bertrand Picard.
Alors, le tour du monde sans escale, ça, c'était en ballon.
Ça, c'était en ballon.
C'était avec Breitling Orbiter. Oui. Et avec Solar Impulse, l'avion solaire, là, il y avait quelques escales pour changer de pilote de temps en temps.
Oui, c'est ça.
Et sans carburant, sans pollution, quoi. Sans bruit.
Oui, et vous avez testé aussi avec la voiture à hydrogène, l'année dernière, hein, pour évidemment montrer qu'on pouvait également faire des kilomètres, les kilomètres.
Et là, c'était avec une voiture de série. C'était pas une voiture expérimentale. C'était ça le message que je voulais passer. C'était une Hyundai Nexo qu'on peut acheter dans le commerce et qui m'a permis de faire quasiment 800 km avec un seul plein d'hydrogène.
Oui, pour montrer que tout ça est aujourd'hui applicable. Ce qui était de l'expérimentation il y a 10 ans, arrive aujourd'hui sur le marché et va être. Alors évidemment, il peut y avoir parfois des surcoûts, bien sûr, parce que c'est un petit peu plus cher de développer la technologie. Mais demain, elle sera à portée de tous ou pas, Bertrand Picard?
Mais déjà aujourd'hui, c'est ça qu'il faut voir. Ouais. Il y a 10 ou 15 ans, il n'y avait pas vraiment de solution. Ouais. Il y a 5 à 10 ans, les solutions sont arrivées, mais elles n'étaient pas rentables. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles sont rentables. C'est-à-dire que ça offre des nouveaux débouchés industriels. Pour les consommateurs, c'est moins cher. Ça permet des économies d'énergie, des économies de ressources. Donc, en fait, c'est ça le grand changement de paradigme. Et c'est ça qui est enthousiasmant. C'est que la protection de l'environnement est devenue beaucoup plus rentable que sa destruction. C'est ça le message qu'il faut faire passer.
Oui, c'est ça. Et alors, bien souvent, on l'évoquait déjà ce matin. Comment concilier écologie et économie? On a souvent tendance à opposer bien sûr ces deux mondes. Et si on les oppose, on n'avancera pas, quoi, on ira dans le mur.
Mais complètement. C'est-à-dire qu'on ira dans le mur autant si les industriels continuent avec les vieux systèmes économiques périmés que si certains fanatiques écologistes prônent une décroissance qui fait peur à tout le monde et qui va créer un refus, un rejet de l'écologie. Et ça, c'est très dangereux parce que ce qu'il faut, c'est motiver le monde politique, économique, industriel, autant que la population, autant que les citoyens, que l'écologie est une aventure extraordinaire. C'est enthousiasmant. Et ce message-là, vous savez, il est possible parce que jusqu'à maintenant, on a couplé la création de richesses, la création de valeur, ce qu'on appelle le PIB, on l'a couplé à la quantité de consommation, la quantité de production. Il fallait consommer toujours plus. Et ça crée une société de gaspillage qui nous met au désastre écologique. Oui. Donc ce qu'il faut, c'est coupler la création de richesses, création de valeur, à la qualité de l'efficience. C'est-à-dire que tout ce qui permet d'être plus efficient, tout ce qui permet d'économiser, tout ce qui permet d'avoir moins de déchets, de consommer moins, aujourd'hui devient rentable, ça devient la source économique.
Vous imaginez aussi dans le monde de l'industrie et dans le monde des gens du marketing, par exemple, qui pendant 30 ans, 40 ans, on leur a appris à produire, à faire acheter davantage par les consommateurs. Et nous-mêmes, les consommateurs, quoi, être incités à acheter en permanence et à renouveler l'ensemble de nos appareils.
Oui, mais quand vous renouvelez l'ensemble de vos appareils très régulièrement parce qu'il y a une obsolescence programmée, ça coûte beaucoup plus cher au consommateur. Ouais. Il vaut beaucoup mieux que le consommateur achète de la meilleure qualité un petit peu plus cher qu'acheter beaucoup plus moins cher. En fin de compte, le consommateur, jusqu'à maintenant, il y perdait. Ouais. C'est ça qu'il faut savoir. Gaspiller, ça équivaut à perdre de l'argent. Et pour les producteurs, ça fait des marges bénéficiaires très très faibles. Donc en fait, ils ne s'en sortent pas, ils doivent vendre toujours plus.
Oui, vous êtes justement initiateur aussi de solutions à travers les expériences que vous avez pu mener et aujourd'hui vous les mettez en valeur en fait ces solutions. Est-ce qu'elles existent vraiment et est-ce que les industriels les prennent en compte en commençant par les industriels avant d'aller voir chez les particuliers?
Alors expliquons d'abord ce que sont ces solutions.
Oui,
c'est vrai qu'avec la Fondation Solar Impulse, on a identifié jusqu'à maintenant 1300 solutions technologiques qui peuvent être des systèmes, des processus, des matériaux, des produits, des appareils, des sources d'énergie, etc., qui sont capables de protéger l'environnement tout en offrant un débouché industriel. Donc, ce sont ou des start-up qui développent des nouveaux marchés ou des grandes entreprises qui utilisent ces processus. Et ça, c'est valable autant pour celui qui les produit que pour le consommateur. Je vous donne un exemple de cette qualité d'efficience qu'on peut vendre aujourd'hui. Engie, le producteur d'énergie, a un système qu'on appelle le contracting, où Engie investit chez le client pour baisser la consommation énergétique du client.
Mmh. Ah ben, le client, alors, il a du mal à imaginer que c'est vrai. Il se dit, c'est pas possible. Derrière, il y a une entourloupe, non ?
Eh bien, il n'y a pas d'entourloupe. Ouais. Il y a simplement l'utilisation de nouvelles technologies. Quand on isole un bâtiment, quand on change le système de chauffage, quand on permet de consommer moins d'énergie, eh bien, forcément, le client va avoir une facture réduite. Et comment est-ce que Engie s'en sort ? En partageant les économies avec le client. Oui. Donc en fait, moins il y a d'énergie vendue, plus il y a de profit. C'est ça le nouveau modèle économique.
Et ça, on y arrive progressivement. Et la deuxième étape, c'est peut-être de convaincre aussi l'ensemble des citoyens consommateurs que nous sommes, quoi.
Oui, mais convaincre les citoyens, convaincre les industriels et convaincre le monde politique. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est que les réglementations, le cadre légal est complètement archaïque. Le cadre légal, il est basé sur ce qu'étaient capables de faire les vieilles technologies démodées et inefficientes. Donc aujourd'hui, il faut être beaucoup plus ambitieux dans la politique environnementale. Il faut que les normes, les standards obligent à l'efficience, c'est-à-dire tirent les innovations sur le marché. Sinon, c'est bien joli, mais les 1300 solutions qu'on a identifiées dans le monde, elles dans les tiroirs des start-up, elles n'arriveront pas aux consommateurs qui se réjouissent de les avoir.
Et est-ce que, Bertrand Piccard, vous êtes un scientifique ou un écologiste, ou alors les deux dans l'âme, vous ?
Alors, moi, je suis
écologiste. Parce que souvent, on les oppose aussi, quoi.
Mais oui, il ne faut surtout pas les opposer. Moi, je suis écologiste dans le cœur et je suis scientifique dans l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, je suis réaliste. J'ai une vision. Je suis profondément écologiste. Mais je sais aussi que pour arriver à motiver les gens à partager cette écologie-là, eh bien, il faut être réaliste. Il faut les prendre avec nous. Il ne faut pas les attaquer. Il faut leur montrer quels sont les avantages qu'ils peuvent avoir à entrer dans ce mouvement écologique.
La pédagogie.
Mais c'est de la pédagogie. C'est l'exemple qu'on peut leur donner. Et puis moi, c'est ce que j'ai appris, parce qu'à l'origine, je suis psychiatre, hein, je ne suis pas seulement explorateur. Moi, j'ai toujours appris que pour motiver quelqu'un, il faut apprendre à parler son langage. Et honnêtement, le langage, aujourd'hui, des grands décideurs, ceux qui sont capables de changer quelque chose dans ce monde, c'est quoi ? C'est la création d'emplois, et heureusement, parce que tout le monde en profite, et le profit. Par conséquent, il faut montrer que l'écologie va créer des emplois, va créer du profit, et qu'en même temps, on va protéger l'environnement en changeant complètement le paradigme de la consommation.
Merci beaucoup, Bertrand Piccard, d'être venu au micro Sud Radio ici au Monde Nouveau, au Corum à Montpellier. Vous êtes le parrain. On va vous laisser aller justement aussi animer des conférences. Et puis, le public peut venir et vous parler directement, vous rencontrer comme l'ensemble, en fait, des acteurs.
Parce que ça, c'est ça qui est beau dans ce genre de forum.
Vous l'entendez, ça commence à arriver. Vous l'entendez derrière tous ces gens qui arrivent ce matin au Corum. Restez avec nous dans quelques instants. Une invitée, Carole Delga, présidente PS de la région Occitanie et présidente de Région de France, sera avec nous. Vous pourrez bien entendu commenter sur notre compte Twitter. Bienvenue, c'est le Grand Matin Sud Radio, il est 8h57.
Allez, nous sommes en direct du... il y a du bruit, il y a de l'ambiance, etc. Et on discute. Non, mais tout va bien. En fait, on discute évidemment avec les uns et les autres et l'ensemble des associations qui arrivent ici à ce Corum, le Monde Nouveau, à Montpellier. Pendant 3 jours, nous avons reçu beaucoup d'invités. On va continuer. Et vous pouvez d'ailleurs aussi réagir. Si vous avez des questions à poser très concrètes, 0826 300 300, vous pouvez le faire. Beaucoup d'associations vont nous dire ce qu'elles font très concrètement aujourd'hui sur le terrain. Des entrepreneurs, parce qu'on a un invité qui était là déjà avec nous il y a 2 ans à Perpignan lors de la première édition, 2 ou 3 ans. Et justement, il y a...
Du nouveau.
C'est intéressant, quoi. Vous aviez en fait lancé quelque chose, Cécile va vous présenter.
Oui, en fait, c'est un acteur... on parle d'innovation aujourd'hui. Éric Scotto est avec nous, président et cofondateur d'Acuo Énergie. On parle photovoltaïque aujourd'hui. Vous nous en aviez parlé il y a 2 ans. Et on va directement commencer par l'actu, puisque vous, en ce moment, c'est l'exposition universelle à Dubaï, au Pavillon France. Vous partez ce soir à Dubaï. Et vous nous aviez annoncé, il y a 2 ans, que vous alliez mettre en place donc des panneaux photovoltaïques.
Alors en fait, je vous remercie de me réinviter, mais c'est vrai que c'est un anniversaire quasiment, hein. On en avait parlé il y a 2 ans. Donc je vous avais parlé d'une tuile photovoltaïque, hein, puisqu'à l'époque, ce qu'on expliquait, c'est que
Ce qui était très nouveau, hein, personne ne le faisait.
C'était nouveau en 2010, mais ce qui s'était passé derrière, c'est que tout ça avait pris un petit peu de temps. Et si on veut vraiment, comme le dit l'Europe et la France d'ailleurs, couvrir et produire 25% de notre énergie en Europe grâce aux toitures, donc c'est assez colossal. Nous, on avait eu l'idée qu'il fallait rajouter un élément supplémentaire au produit. Et donc, le produit n'est plus un panneau photovoltaïque, mais une tuile. Donc, bien sûr, il couvre le toit, donc il permet l'étanchéité, il produit de l'énergie et il est esthétique. Et c'est ça toute la différence.
Ah bah ça change tout. Donc, dans le paysage, ça change tout.
Voilà. Donc, on l'avait installé à Perpignan, donc toujours en Occitanie. Mmh, ouais. C'est là le lieu historique. Et ce que l'on s'est dit, c'est qu'on voulait profiter de cette expo universelle, où expo universelle par essence, on présente les innovations d'aujourd'hui, de demain, à quoi va ressembler le paysage technologique de demain. Et on a voulu faire comme les impressionnistes, qui avaient été critiqués, pas comme eux, parce qu'ils auraient aimé pas être critiqués, mais ils ont été critiqués à l'époque et on a voulu amener quelque chose d'extrêmement nouveau. Donc avec l'architecte Jean-Luc Pérez, architecte marseillais, on s'est dit on va essayer de reproduire les nymphéas avec des tuiles photovoltaïques. Et donc le pavillon France et le gouvernement français nous a fait confiance, on a gagné le concours et demain nous inaugurons, nous montrerons à toute la planète qu'avec des tuiles photovoltaïques produites en France à Châtellerault, on peut aussi faire des œuvres architecturales magnifiques. Donc ça ouvre la voie au photovoltaïque en toiture, grâce à cette nouvelle notion qui est l'esthétisme.
Oui, alors ça, c'est important, parce que bien souvent, il y en a qui se disent, bon, bah, je mettrais bien du photovoltaïque sur ma toiture, mais c'est pas très esthétique, c'est pas très beau.
Et puis ça coûte cher.
Alors, ça coûte cher, mais est-ce que... Alors, on va voir le coût avec vous sur les tuiles, mais est-ce que tout un chacun qui écoute aujourd'hui, qui se dit, bah tiens, moi, je vais refaire ma toiture, peut utiliser ces tuiles de photovoltaïque pour les mettre sur une partie de sa toiture ou l'ensemble de sa toiture?
Bah écoutez, c'est en direct sur Sud Radio. J'attendais que vous m'invitiez pour lancer la commercialisation de ce produit pour les particuliers. Oui, donc la réponse est oui.
Oui.
Effectivement, on a fait beaucoup de concours architecturaux, donc ce sont nos grandes toitures. Mais on a, ces derniers mois, couvert des chalets, couvert des maisons à Saint-Malo, dans des lieux emblématiques, etc. Et on voulait, à partir de cette exposition, sortir médiatiquement et montrer à tout le monde que c'est à la portée de chacun.
À la portée de chacun, oui. C'est-à-dire en termes de coût, par exemple, à des... par rapport à des tuiles traditionnelles, parce que ça coûte cher de refaire une toiture. Hein.
Alors,
quand on a une maison, les auditeurs là qui nous écoutent le savent, il faut faire un gros chèque, quoi, bien
souvent. Tout dépend où vous mettez la traditionnalité. C'est-à-dire que si vous êtes dans les Alpes et que vous voulez faire un chalet en lauze, etc. Aujourd'hui, la lauze, c'est extrêmement cher. On a énormément de mal à en trouver, d'ailleurs. On a des problématiques de matériaux. Donc aujourd'hui, dans les Alpes, on est déjà moins cher. Donc, une toiture solaire photovoltaïque en tuile solaire est déjà moins chère qu'une toiture traditionnelle. Alors, ça ne sera pas exactement la toiture traditionnelle. Par contre, on fera passer des photos, on mettra des photos et vous verrez que ça y ressemble beaucoup. C'est extrêmement joli. Ça fonctionne. Sur de la tuile mécanique de très bonne qualité, on est déjà compétitif. Mais n'oubliez pas une chose. C'est pas uniquement la toiture et la couverture. C'est une toiture qui produit.
Qui produit.
Bien sûr. Donc, si on devait superposer des panneaux sur une toiture, ces tuiles, l'ensemble, puisque c'est un matériau de construction, est à peu près équivalent à le prix d'un panneau sur une toiture bas de gamme ou moyenne gamme. Sur une toiture de haut de gamme, on a déjà un aspect économique favorable.
Oui, et en termes d'aide, de subvention, parce que souvent, évidemment, c'est ce qui est recherché, ce qui va déclencher l'achat, quoi, la possibilité de refaire sa toiture avec du photovoltaïque, par exemple.
Il y a un décret qui va apparaître dans les jours qui viennent, qui va... donner la possibilité d'étendre la puissance de production de votre toiture avec un tarif réglementé. C'est-à-dire qu'en fait, un particulier aujourd'hui peut bénéficier d'un tarif de rachat de l'énergie, peut faire de l'autoconsommation. Quand c'était vu il y a 2 ans, c'était balbutiant. Aujourd'hui, c'est parti. L'autoconsommation, ça veut dire quoi? Quand vous êtes là, vous consommez l'énergie que vous produisez. Ouais. Quand vous n'êtes pas là, vous revendez l'énergie au réseau. Et donc le bilan est positif et donc sur un certain nombre d'années, vous pouvez amortir le prix de cet investissement. Donc là, on est en train de parler beaucoup d'économie.
Ouais.
c'est très bien parce que ça veut dire qu'on a mis ça sur le plan le plan de la compétitivité et le plan de l'accessibilité à ce type de produit. Mais on oublie souvent le côté positif pour la planète. Donc c'est aussi faire votre part. Donc chacun peut faire sa part et donc amener une pierre à l'édifice de la lutte contre le changement climatique. Et ça, c'est maintenant et tout de suite qu'il faut le faire.
Et c'est 100% 100% français.
Oui, ça il faut le souligner. Oui, bien oui, sûr.
Châtellerault, une belle petite ville du centre de la France.
Juste un petit mot rapidement, puisque c'est aussi c'est les particuliers, mais aussi l'agriculture. Vous mettez aussi des panneaux photovoltaïques au pied des vignes, par exemple, puisqu'on est un peu dans le pays du vin aussi ici.
Oui, alors on en avait parlé. On avait inventé ce concept d'agri-énergie qu'on appelle communément agrivoltaïsme. Et là, c'est marié en fait sur un même espace. Production photovoltaïque et agriculture. C'est très important, on va en parler beaucoup dans les mois qui viennent, vous allez voir. Pas de conflit d'usage, on travaille ensemble au cœur des territoires avec les agriculteurs.
Merci beaucoup Eric Scott d'avoir été avec nous, un président et cofondateur d'Acuo Énergie.
Et que l'on peut retrouver si vous êtes
Internet,
dans la... Oui, absolument, et si vous êtes dans la région de Montpellier, vous pouvez venir ici et dialoguer en direct, même si évidemment, vous l'avez entendu, il doit partir cet après-midi pour s'envoler pour Dubaï, pour cette exposition universelle.
Et
vitrine dans le monde entier, oui,
absolument.
Bien sûr, bravo.
Restez avec nous, il est 9h30, on revient dans un instant pour la suite du Grand Matin Sud Radio en direct du Forum Le Monde Nouveau à Montpellier.